Chapitre 4 Convocation. Seule dans sa chambre, au cœur des quartiers des femmes, Moiraine ajusta sur ses épaules son châle orné de motifs végétaux, un entrelac de sarments de vigne et de lierre du plus bel effet. Puis elle s'observa dans un miroir en pied. Quand elle était en colère, ses grands yeux noirs semblaient aussi perçants que ceux d'un faucon. Et à cet instant précis, il paraissait vouloir percer le verre revêtu d'une fine couche d'argent. Si Moiraine avait le châle dans ses sacoches de sel en arrivant à Faldara, c'était un pur hasard. Avec la flamme de Tarvalon qui paradait entre les omoplates de sa porteuse et ses longues franges de couleur, du bleu pour Moiraine, symbolisant l'ajat de sa propriétaire, l'accessoire vestimentaire, très marqué, était rarement utilisé hors de Tarvalon. Et même là, les Aes Sedai l'arboraient essentiellement dans la tour blanche, pour les réunions plénières du hall de la tour, un des rares événements justifiant un tel protocole. Hors des murs scintillants, la simple vue de la flamme aurait incité bien trop de gens à détaler, pour aller se cacher ou afin d'ameuter les fils de la lumière. Et les flèches des capes blanches étaient mortelles pour tout le monde, y compris les Aes Sedai. Très rusés, les fils faisaient toujours en sorte que leur victime ne voit pas l'archer avant la dernière seconde, quand il était trop tard pour qu'elle puisse réagir. Moiraine n'avait jamais envisagé de mettre son chat à la Faldara, mais pour assister à une audience de la chaire d'Amirlin, il fallait observer quelques règles élémentaires. Petite et fine, Moiraine avait tendance à faire beaucoup moins que son âge, comme toutes les Aes Sedai. Mais malgré sa peau lisse de jeune fille, sa calme autorité et son incontestable présence lui permettaient d'en imposer à bien des gens. Ces deux qualités, acquises lors de sa jeunesse, dans le palais royal du Caerien, avaient été encore amplifiées par les années passées dans la peau d'une Aes Sedai. Une bonne chose, car en ce jour, elle allait en avoir sacrément besoin.
Il y a des ennuis, c'est sûr. Sinon, la chair d'Amirlin ne serait jamais venue en personne.
Une analyse juste, mais qui ouvrait simplement la voie à une multitude d'autres questions.
Quels ennuis? Qui la chair d'Amirlin a-t-elle choisi pour l'accompagner? Et pour commencer, pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Au point où nous en sommes, il est inenvisageable que ça tourne mal.
La bague à l'image du grand serpent refléta la lumière lorsque Moiraine toucha la délicate chaîne d'argent qui ceignait son front. Juste sous la lisière de sa crinière noire non tressée, une petite pierre bleue brillait sur sa peau claire. Dans la tour blanche, on connaissait les petits miracles qu'elle pouvait accomplir en utilisant le pendentif comme focus. Pourtant, il s'agissait seulement d'un éclat de cristal bleu poli qu'une jeune fille avait utilisé lors de ses premières expériences, sans personne pour la guider. Se souvenant des récits sur les Angréales et les Saangréales, des artefacts encore plus puissants, ces objets qui permettaient aux Aes Sedai, durant l'âge des légendes, de canaliser une incroyable quantité de pouvoir, cette jeune fille s'était dit qu'un focus, même plus modeste, l'aiderait à puiser dans la source authentique. Ses sœurs de la Tour Blanche avaient une idée de ce qu'elles réalisaient grâce au pendentif. Pour le reste, elles laissaient courir leur imagination, inventant des choses qui choquaient Moiraine lorsqu'elles arrivaient à ses oreilles. En réalité, tout ce qu'elle faisait avec son cristal était à la fois simple et sans importance capitale, même si ça se révélait parfois très pratique. En d'autres termes, ces miracles ressemblaient à ceux qu'un enfant pouvait imaginer. Mais si les femmes qui accompagnaient la chair d'Amirlin n'étaient pas les bonnes, le pendentif risquait de les déstabiliser à cause des mensonges que certaines colportaient à son sujet. Quelqu'un frappa soudain à la porte. Des coups rapides et insistants qui ne pouvaient pas annoncer la visite d'un résident régulier de la forteresse. Au Chiennard, personne ne toquait ainsi à une porte, et surtout pas à celle d'une Aes Sedai. Moiraine resta devant le miroir jusqu'à ce que ses yeux ne reflètent plus qu'une parfaite sérénité, ses véritables pensées enfouies dans leur insondable profondeur. Puis elle se mit en mouvement, tout en s'assurant qu'elle avait toujours à la ceinture sa bourse de cuir.
« Quoi qu'il l'ait incité à quitter Tarvalon, la chair d'Amirlin n'y pensera plus lorsque je lui aurai montré ce qui me tracasse. »
Une seconde série de coups, encore plus impérieuse que la première, retentit avant que Moiraine ait traversé la pièce et ouvert la porte. Quand ce fut fait, elle adressa un sourire apaisant aux femmes qui venaient lui rendre visite. Elle les reconnut toutes les deux. Anaya aux cheveux noirs, splendide avec son châle aux franges bleues. Et Liandrine, la blonde, tout aussi pimpante dans son fichu aux franges rouges. Très jolie et authentiquement jeune, contrairement à la majorité de ses sœurs, Liandrine avait un joli petit minois de poupée, mais sa moue maussade en gâchait l'effet. Pour l'heure, elle avait la main levée, car elle s'apprêtait à toquer de nouveau à l'instant où Moiraine avait ouvert. Ses sourcils foncés et ses yeux plus sombres encore faisaient un contraste frappant avec ses tresses couleur miel pâle, mais cette combinaison était assez fréquente au Tarabone.
les deux visiteuses étaient plus grandes que Moiraine, même si Liandrine la dépassait d'à peine plus de 2 pouces. Anaya eut un grand sourire dès qu'elle vit Moiraine. Malgré son visage ingrat, cette expression lui conférait une certaine beauté, la seule à laquelle elle pouvait prétendre, hélas. Mais ça suffisait amplement, car presque tout le monde se sentait en sécurité et consolé lorsqu'Anaya souriait ainsi. Peut-être parce que ça donnait à son interlocuteur l'impression d'être une personne rare et spéciale.
« Que la lumière t'éclaire, Moiraine. Je suis contente de te revoir. Tu vas bien après tout ce temps ? Je me réjouis de ta présence, Anaya, tu peux me croire. »
La stricte vérité. Dans des circonstances pareilles, il était réconfortant de compter une véritable amie parmi les Aes Sedai en délégation à Faldara.
« Que la lumière brille sur toi, mon ami. »
Liandrine eut une moue désapprobatrice, puis elle ajusta son châle sur ses épaules et prit la parole.
« La chair d'Amirline exige de te voir, sœur Moiraine. »
Un ton maussade, comme l'expression de la jeune femme, et une façon de présenter les choses des plus glaçantes. Mais cette façon de faire n'était pas réservée à Moiraine. En permanence, Liandrine s'exprimait comme si on venait de lui voler son déjeuner.
« Cette chambre est protégée, »
dit-elle, se tordant le cou pour regarder à l'intérieur.
« Pourquoi veux-tu empêcher tes sœurs d'y entrer ? C'est une précaution globale. »
répondit Moiraine.
Beaucoup de servantes voudraient en savoir plus sur nous, et je ne veux pas qu'elles fouillent ma chambre en mon absence. Jusque-là, je n'avais pas besoin d'utiliser des protections sélectives. »
Elle sortit et ferma la porte derrière elle, démentant subtilement ses propos.
« On y va ? Il ne faudrait pas faire attendre la chair d'Amirline. »
Elle s'engagea dans le couloir, Anaya à ses côtés, toute contente de pouvoir bavarder un peu. Liandrine resta un moment devant la porte, se demandant sans doute ce que sa sœur cachait. Puis elle courut pour rattraper son retard et se campa sur l'autre flanc de Moiraine, davantage comme un gardien qu'à la manière d'une escorte. Anaya continua à parler de tout et de rien, comme si elle se promenait avec une vieille amie. Sur le sol couvert d'un épais tapis, les délicats escarpins des trois femmes ne faisaient pas plus de bruit qu'un battement d'ailes de papillon au-dessus d'un parterre de fleurs. Les servantes s'inclinèrent toutes sur le passage des Aes Sedai, certaines les gratifiant de révérence, dont elles ne se seraient même pas fendues pour le seigneur Aguelmar. Des Aes Sedai un peu partout, la chair d'Amirline au palais. Davantage d'honneur en un jour, à vrai dire, que les femmes de la forteresse en attendaient durant toute leur vie. Quelques dames de la noblesse allaient et venaient dans les couloirs. Elles aussi s'inclinèrent, ce qu'elles n'auraient sûrement pas fait pour le seigneur de Faldara. Alors que Moiraine et Anaya répondirent à toutes ces salutations d'un signe de tête, Liandrine les ignora superbement. Il n'y avait que des femmes dans cette partie de la forteresse, du moins si on exceptait les quelques petits garçons qui jouaient dans les couloirs. Tout mâle ayant fêté son 10e anniversaire se gardait bien d'entrer sans permission ou invitation dans les quartiers des dames. Moiraine remarqua que les gamins aussi s'inclinaient, maladroitement, sur le passage des 3 visiteuses. Leur sœur s'en sortait beaucoup mieux, ça ne faisait pas de doute. Attendrie, Anaya ébouriffa quelques jeunes têtes avant de sourire à leur propriétaire.
« Cette fois, Moiraine, »
dit-elle,
« tu es restée absente de Tarvalon beaucoup trop longtemps. Tu manques à la cité et à tes sœurs. Et on a besoin de toi dans la Tour Blanche. Il faut bien que certaines d'entre nous arpentent le monde. »
répondit Moiraine sans aucune ironie.
« Je te laisse bien volontiers la Tour Blanche, mon ami. Cela dit, à Tarvalon, vous en savez plus long que moi sur la marche du monde. Bien trop souvent, je m'en tiens à ce qui est arrivé à l'endroit où j'étais la veille. Quelles sont donc les nouvelles ?»« 3 faux dragons de plus. »
grinça Liandrine, contente de gâcher l'atmosphère.
« Au Saldaya, au Murandi et à Théar, les imposteurs font des ravages. Et pendant ce temps, les membres de l'Aja Bleu papotent, sourient et tentent de se raccrocher au bon vieux temps. »
Anaya fronça les sourcils, l'air pas commode. Liandrine ferma son clapet, mais le mal était déjà fait.
« 3 !»
soupira Moiraine, ramenée de force à la réalité. Ses yeux brillèrent un court instant, mais elle se ressaisit.
« 3 durant les 2 dernières années, et 3 autres aujourd'hui, en même temps. Comme les précédents, nous les neutraliserons. »
ne put s'empêcher de dire Liandrine.
« Ces ignobles mâles seront matés, et avec eux, nous réduirons aussi au silence les pouilleux qui les soutiennent. »
Moiraine faillit être amusée par les certitudes grotesques de Liandrine. Mais le sujet était trop grave pour qu'on en rît. Du moins quand on savait de quoi on parlait.
« Ma sœur, quelques mois ont-ils suffi pour te faire perdre la mémoire ? Le dernier faux dragon et ses prétendus pouilleux ont dévasté le Géaldan avant d'être vaincus. Je t'accorde que Loghain est désormais à Tarvalon, apaisé et inoffensif. Mais combien de nos sœurs sont tombées pour le terrasser? Nous ne pouvons pas nous permettre une seule perte, et cette guerre a éclairci nos rangs. Les deux imposteurs qui ont précédé Loghain étaient incapables de canaliser le pouvoir. Même ainsi, les habitants du Kandor et de l'Arad Doman ne sont pas prêts de les oublier. Des villages brûlés, des montagnes de morts sur les champs de bataille. Comment affronter trois imposteurs simultanément? Surtout si des hordes de gens se rallient à leur bannière. Les soi-disant dragons réincarnés n'ont jamais eu de mal à recruter des fidèles. Que nous réservent les guerres à venir? C'est moins grave que tu le penses,
dit Anaya.
À notre connaissance, seul l'imposteur du Saldaea est à même de canaliser. Il n'a pas eu le temps de gagner beaucoup d'illuminés à sa cause, et un détachement de nos sœurs doit déjà être en train de s'occuper de lui. L'armée de Théar poursuit le faux dragon et ses forces en Adon Mirk. Et l'affabulateur du Murandi est déjà couvert de chaînes.
Elle éclata de rire.
Pensez que les Murandiens ont été les plus rapides à réagir. En principe, ils n'ont aucun sens de l'unité nationale. Si on leur demande, ils répondent « Je suis de Lugard, ou d'Inishlini, ou encore du fief d'on ne sait quel obscur seigneur. » Mais là, craignant qu'un de leurs voisins saisisse l'occasion de les envahir, ils ont été prompts à museler leur faux dragon. À vrai dire, il aura à peine eu le temps d'ouvrir la bouche, le pauvre fou. Peut-être, mais trois en même temps, voilà qui reste inquiétant. L'une de nous a-t-elle eu une vision?
C'était peu probable, car les Aes Sedai étaient médiocrement doués pour la voyance, et ce depuis des siècles. Et Moiraine ne fut pas surprise qu'Anaya secoue négativement la tête. À une intersection de couloirs, les Aes Sedai rencontrèrent Dame Amalisa, qui les salua d'une révérence, sa jolie robe verte élégamment tenue entre le pouce et l'index.
« Honneur à Tarvalon, »
souffla-t-elle.
« Et aux Aes Sedai. »
La sœur du seigneur Aguelmar méritant mieux qu'un signe de tête, Moiraine lui prit la main et l'aida à se redresser.
« Honneur à toi, ma sœur. Relève-toi, je t'en prie. »
Amalisa obéit en souriant, et le rose lui monta aux joues. Tarvalon restait pour elle un lieu mythique, et même pour quelqu'un de son rang, être appelé « ma sœur » par une Aes Sedai était on ne peut plus flatteur. Petite beauté brune qui portait magnifiquement sa maturité, Amalisa sourit de plus belle.
« Tu me fais trop d'honneur, Moiraine Sedai. Amalisa, depuis combien d'années nous connaissons-nous? Dois-je désormais te donner du madame, comme si nous n'avions jamais pris le thé ensemble? » « Bien sûr que non. »
La force de son frère se retrouvait sur le visage d'Amalisa. La plus grande douceur de ses traits ne change rien à l'affaire. Selon certains, le seigneur Aguelmar, pourtant un guerrier renommé, était à peine à la hauteur de sa sœur.
« Mais la chair d'Amirlin est ici, »
modéra Amalisa.
« Quand le roi Éhazar vient à Faldara, je l'appelle Massami, petit oncle si tu préfères. Ça vient de mon enfance, lorsqu'il me portait sur ses épaules. Mais je le nomme ainsi en privé. En public, ce serait inconvenant. Le protocole est nécessaire, »
intervint Anaya.
« Mais les gens ont trop souvent tendance à en rajouter. » Si ça ne vous dérange pas, appelez-moi Anaya. Et permettez-moi d'utiliser aussi votre prénom.
Du coin de l'œil, Moiraine vit Egwen passer en trombe dans un couloir latéral. Voûté pour dissimuler sa véritable taille, un homme en gilet de cuir marchait derrière elle, croulant sous le poids d'énigmatiques ballots. L'Aes Sedai s'autorisa l'ombre d'un sourire.
Si cette fille fait autant assaut d'initiative à Tarvalon, la place de la chair d'Amirlin lui est tôt ou tard promise. Si elle apprend à maîtriser son inspiration. Et s'il reste une place à prendre.
S'arrachant à ses pensées, Moiraine capta la fin d'une tirade de Liandrine.
Et je serai ravi d'avoir l'occasion de découvrir votre pays.
Pour une fois, le ton était amical, et la jeune femme arborait un sourire chaleureux, presque enfantin. Quand Amalisa invita les trois Aes Sedai à venir la rejoindre dans son jardin privé, où elle allait recevoir des amis, l'enthousiasme de Liandrine ne manqua pas d'étonner Moiraine. La jeune femme avait fort peu de relations sociales, et toutes émargeaient à l'âge à rouge.
Avec peut-être une exception pour quelques Aes Sedai des autres obédiences. Au rythme où vont les choses, elle finira par se lier d'amitié avec un homme, voire un Trolloc.
En supposant que Liandrine fasse une différence entre l'engeance masculine et les monstres. Au sein de l'âge à rouge, on ne se souciait en général pas trop des détails de ce genre. Anaya déclina l'invitation, expliquant que la chair d'Amirlin les attendait sans doute déjà impatiemment.
Que la lumière l'éclaire et que le Créateur la protège.
répondit Amalisa.
« Je comprends très bien. Nous nous verrons après dans ce cas. »
Sur un gracieux signe de tête, la sœur d'Agelmar reprit son chemin. En marchant, Moiraine étudia discrètement Liandrine. Les yeux rivés devant elle, Aes Sedai blonde semblait plongée dans ses pensées, oubliant jusqu'à la présence de ses deux sœurs.
« Que lui arrive-t-il donc ?»
Anaya paraissait ne rien avoir remarqué, mais elle était encline à accepter les gens tels qu'ils étaient et tels qu'ils avaient envie d'être. Moiraine s'étonnait toujours que son ami s'en sorte si bien à la Tour Blanche. Cela dit, pas mal de mauvais esprits tenaient son honnêteté, sa générosité et sa tolérance pour les subtils outils de son machiavélisme. Immanquablement, ses détractrices étaient prises à contre-pied chaque fois que sa sincérité éclatait au grand jour. Résolue à dire ce qu'elle pensait et à penser ce qu'elle disait, Anaya avait aussi le don de voir le cœur des choses, et elle ne rejetait jamais ce qu'elle découvrait. Les trois femmes étant de nouveau seules, Anaya reprit le fil de son discours, résumant les nouvelles du monde à l'intention de Moiraine.
En Andorre, c'est mitigé. Avec l'arrivée du printemps, les émeutes ont cessé à Kemlin. Mais trop de gens accusent encore la reine et Tarvalon d'être responsables de la longueur inhabituelle de l'hiver. Morgaz a une moins bonne prise sur le pouvoir que l'an dernier. Mais elle ne l'a pas lâché, et elle le gardera tant que Gareth Bryne dirigera les gardes de la reine. La fille héritière, Elaine, et son frère Gawain sont arrivés sains et saufs à Tarvalon, où ils ont commencé leur formation. Jusqu'à la dernière minute, certaines de nos sœurs ont redouté que cette tradition ne soit plus respectée. « Ça n'arrivera pas tant que Morgaz aura un souffle de vie »,
affirma Moiraine. Liandrine eut comme un sursaut, à croire qu'elle revenait brusquement à la réalité.
« Prions pour qu'elle vive longtemps »,
dit-elle.
« La caravane de la fille héritière a été suivie par des fils de la lumière. Tout le long de l'Erinin et jusqu'au pont de Tarvalon. Les camps poussent comme des champignons autour de Kemlin. Et à l'intérieur, les espions des Capes Blanches voient et entendent tout. Il est peut-être temps que Morgaz apprenne la prudence,
soupira Anaya.
Chaque jour, le monde devient plus dangereux, même pour une reine. Et peut-être surtout pour une reine. Mais elle a toujours été têtue. Je me rappelle son arrivée à Tarvalon pour sa propre formation. Elle n'avait pas les aptitudes requises pour devenir une sœur à part entière, et ça la rongeait de l'intérieur. Parfois, je me dis qu'elle pousse sa fille pour compenser, sans se soucier vraiment de ce qu'elle a choisi. « Elaine est née avec une étincelle de pouvoir, »
rectifia Moiraine.
« Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle choisit ou non. Morgaz ne prendrait pas le risque qu'elle meure faute de formation, même si tous les fils de la lumière de la Madicia assiégeaient Kemlin. Elle ordonnerait à Gareth Bryne et à ses hommes d'ouvrir à coups d'épée un chemin jusqu'à Tarvalon, et ils le feraient. Si nécessaire, Bryne s'en chargerait tout seul. Mais il vaut mieux que Morgaz garde secret le véritable potentiel de son héritière. » Le peuple accepterait-il qu'elle monte sur le trône du lion si la vérité était connue? Pas une reine formée à Tarvalon selon la coutume, mais une authentique Aes Sedai.
Dans l'histoire, seules quelques souveraines avaient pu devenir des Aes Sedai, et toutes celles qui s'en étaient vantées avaient fini par le regretter. Moiraine eut le cœur serré en pensant aux difficultés du royaume d'Andorre. Mais l'enjeu était trop important pour qu'on s'occupe, voire qu'on se soucie d'un seul pays.
Que sais-tu d'autre, Anaya? Eh bien, en Iliane, on a lancé la grande quête du corps pour la première fois en 400 ans. Selon les Ilianiens, l'ultime bataille approche, et pour affronter les ténèbres, les hommes auront besoin du fabuleux instrument. Des aventuriers de tous les pays ont accouru, avides de trouver le corps et d'entrer dans la légende. Le Mourandi et l'Altara sont montés sur leurs ergots, bien entendu, car ils redoutent que cet écran de fumée dissimule une tentative d'invasion. C'est sans doute pour ça que les Mourandiens ont si vite mis la main au collet à leurs faux dragons. Quoi qu'il arrive, les bardes et les trouvères vont avoir de la matière pour allonger leur cycle. Espérons qu'il n'y aura que ça, de nouveaux récits. Ce ne seront peut-être pas ceux qu'ils attendent,
dit Moiraine, volontairement énigmatique. Liandrine la dévisagea, mais elle ne broncha pas sous son regard inquisiteur.
Eh bien, les récits qui les surprendront seront sûrement ceux qu'ils ajouteront en premier au cycle,
fit Anaya fataliste.
À partir de maintenant, je n'ai plus que des rumeurs à te répéter. Le peuple de la mer a la bougeotte. Ces vaisseaux passant de port en port presque sans marquer d'escale. Les sœurs originaires des îles disent que le Coramor, leur élu, est sur le point de revenir, mais elles refusent de se montrer plus explicites. Tu sais que les Ataan Miré détestent parler du Coramor aux étrangers. Sur ce point, nos sœurs Ataan Miré se comportent davantage comme leurs compatriotes que comme les Aes Sedai. Les Aiel s'agitent aussi, mais personne ne sait pourquoi. Avec eux, il en va toujours ainsi. Cela dit, rien ne laisse penser qu'il prévoit de franchir de nouveau la colonne vertébrale du monde.
Anaya soupira à Pierre Fendre.
Je donnerais cher pour qu'une de nos sœurs soit Aiel. Une seule. Nous savons trop peu de choses sur ce peuple.
Moiraine eut un rire de gorge.
Parfois, je me demande si tu ne serais pas mieux dans l'Ajamaron, mon ami. La plaine d'Almoth,
dit soudain Liandrine. Elle sembla elle-même surprise d'avoir parlé.
Là, ma sœur,
fit Anaya,
nous sommes carrément dans l'extrapolation. Moiraine, ce sont simplement des murmures que nous avons entendus avant de quitter Tarvalon. Il y aurait des combats dans la plaine d'Almoth, et peut-être aussi sur la pointe de Toman. Mais rien n'est moins sûr, et nous sommes partis avant d'avoir pu en apprendre plus long. Le Tarabon et l'Arad Doman,
soupira Moiraine.
Ils se disputent la plaine d'Almoth depuis 300 ans, mais le conflit restait feutré.
Elle se tourna vers Liandrine.
Les Aes Sedai sont censés renoncer à toutes leurs anciennes allégeances, mais peu y arrivent totalement. Il est difficile de ne pas se soucier de son pays natal. C'est ainsi depuis toujours, et...
Assez bavardé !
S'écria soudain l'Aes Sedai blonde.
Moiraine, la chair d'Amirline t'attend.
Elle prit 3 pas d'avance sur ses compagnes et alla ouvrir un des battants d'une grande double porte.
« Et avec toi, elle ne bavardera pas. »
Sa main se posant d'instinct sur la bourse pendue à sa ceinture, Moiraine passa devant Liandrine, la salua comme si elle lui tenait la porte et entra dans la salle. Captant la réaction indignée de sa sœur, être traitée comme une domestique, elle, Moiraine n'eut même pas le cœur de sourire.
« Que mijote-t-elle, bon sang ?»
L'antichambre où l'Aes Sedai venait d'entrer était joliment meublé de fauteuils et de bancs rembourrés, des guéridons en bois poli brillant agréablement sur les épais tapis qui couvraient le sol. Afin de les faire ressembler davantage à des fenêtres, des rideaux de dentelle flanquaient les grandes meurtrières. À cette période de l'année, les cheminées étaient éteintes, même si les nuits restaient encore frisquettes au Chiennard. 4 ou 5 Aes Sedai de la délégation attendaient dans l'antichambre. Comme de juste, Vérine Matouine et Séraphel, de la Jamaron, ne levèrent pas la tête lorsque Moiraine entra. Séraphel était penché sur un très vieux livre à la couverture de cuir usé, manipulant avec d'extraordinaires précautions ses pages jaunies et craquelées. Assise en tailleur sous une meurtrière, Vérine exposait un petit bourgeon à la lumière du soleil afin de mieux l'étudier. De sa main libre, elle dessinait la plante dans un petit carnet qu'elle avait déjà couvert de notes. Alors qu'un encrier ouvert était posé à côté d'elle, la sœur avait sur les genoux tout un échantillonnage de bourgeons et de fleurs. Les membres de l'Ajamaron se vouaient corps et âme à la quête de la connaissance. Plus d'une fois, Moiraine s'était demandé si elle savait ce qui se passait dans le monde, voire dans leur environnement immédiat. Les 3 autres femmes présentes dans la pièce se retournèrent, mais elles ne manifestèrent pas l'intention d'aller à la rencontre de la nouvelle arrivante. La première Aes Sedai, une très mince représentante de l'âge à jaune, ne dit rien à Moiraine. Rien de bien surprenant. Avec le peu de temps qu'elle passait à Tarvalon, comment aurait-elle pu connaître toutes ses sœurs, même si elles étaient bien moins nombreuses qu'à une époque ? Les 2 autres femmes, cependant, lui étaient familières. Aussi pâle que les franges blanches de son châle, Carlinia était l'exact opposé de la brune Alana Mosvani de l'âge à vert. Les 2 femmes se levèrent, regardant Moiraine sans dire un mot. Alana resserra sur son torse les pans de son châle, comme si l'air était soudain glacé, et Carlinia ne bougea pas, à croire qu'elle venait de se transformer en statue. L'air de regretter son comportement, l'Aes Sedai de l'âge à jaune détourna la tête de Moiraine.
« Que la lumière brille sur vous, mes sœurs !»
lança celle-ci. Personne ne lui répondit. À leur absence de réaction, on était en droit de se demander si Vérine et Séraphel avaient entendu.
« Où sont donc les autres ?»
se demanda Moiraine. Les Aes Sedai n'ayant aucun intérêt à être tout au même endroit, sauf quand le danger menaçait, les autres devaient être dans leur chambre, en train de se reposer ou de se rafraîchir un peu. Mais Moiraine était de plus en plus nerveuse, car toutes les questions auxquelles il lui serait impossible de répondre tournaient en boucle dans sa tête. Bien entendu, rien de tout cela n'était visible sur son visage. La porte intérieure s'ouvrit pour laisser passer Léane, pour une fois sans son sceptre à la flamme. D'une taille que bien des hommes auraient enviée, la gardienne des chroniques restait pourtant belle et gracieuse, avec sa peau cuivrée et sa courte chevelure brune. Portant une étole bleue et non un châle, elle indiquait ainsi qu'elle ne siégeait pas au hall de la tour en qualité de représentante de son Aja, mais en tant que gardienne des chroniques.
« Te voilà enfin !»
dit-elle à Moiraine, sans autre forme de politesse.
« Suis-moi, ma sœur. La chair d'Amirline t'attend. »
Léane parlait sans cesse sur le même ton rapide et neutre
qui ne laissait rien deviner de ses sentiments. En lui emboîtant le pas, Moiraine se demanda dans quel état d'esprit elle pouvait bien être. Léane ferma derrière elle la porte qui résonna sinistrement à la manière de celle d'une prison. Au milieu de la pièce, la chère dame Irline était assise derrière un grand bureau sur lequel reposait un coffre d'or décoré d'incrustations d'argent. Malgré sa massive robustesse, la table semblait souffrir sous le poids d'un objet que deux costauds bien entraînés auraient eu du mal à soulever. En voyant le coffre, Moiraine eut du mal à rester impassible. La dernière fois qu'elle l'avait aperçu, il était en sécurité dans la salle du trésor d'Aguelmar. Dès qu'elle avait appris la venue de la chère d'Amirline, Moiraine s'était dit qu'elle en informerait quelques jours après son arrivée. Et voilà que l'objet était en sa possession. Une surprise des plus désagréables. Décidément, tout ça commençait à la dépasser. Moiraine fit la révérence avant de prendre la parole.
« Puisque tu m'as demandé, mère, me voilà devant toi. »
La chère dame Irline tendit la main et sa visiteuse embrassa la bague au serpent qu'elle portait. Un bijou en tout point semblable à celui des Aes Sedai ordinaires. Se relevant, Moiraine adopta un ton un peu moins protocolaire. Mais sans exagération, à cause de la gardienne des chroniques dont elle sentait la présence dans son dos.
« J'espère que ton voyage fut agréable, mère. »
La chère dame Irline était originaire de Théar, pas de la noblesse, mais d'une modeste famille de pêcheurs. Elle se nommait Siouan Sanché, mais plus personne n'utilisait ce patronyme. Depuis 10 ans qu'elle régnait sur les destinées de la Tour Blanche, très peu de gens s'en souvenaient encore. Désormais, elle était la chère d'Amirline, et ça s'arrêtait là. L'étole qui reposait sur ses épaules, bien plus large que celle de la gardienne, arborait des rayures aux couleurs des 7 ajats. À son poste, on appartenait à tous ses ordres et à aucun. C'était la rançon du pouvoir séculier. De taille moyenne, jolie plutôt que belle, la chef suprême des Aes Sedai affichait une détermination très largement antérieure à son accession à la charge ultime. La détermination d'une jeune fille qui avait survécu aux rues de l'Assommoir, le terrible port de Théar. Devant ses yeux bleu clair, des rois, des reines, et même le capitaine général des Fils de la Lumière avaient été contraints de baisser la tête. Aujourd'hui, le regard de la chère d'Amirline était voilé, et sa bouche exprimait une amertume jusque-là inconnue.
« Nous avons invoqué le vent pour avancer plus vite sur le fleuve Erinin, ma fille, mettant même le courant à contribution pour aller plus rapidement. »
La chère d'Amirline marqua une pause, puis elle ajouta d'un ton mélancolique.
« J'ai vu les inondations qu'ont subi les villages sur les deux rives, et qui peut dire quels dégâts nous aurons infligés au climat. En tout cas, en provoquant ces catastrophes et en saccageant peut-être en plus des récoltes, nous ne nous sommes pas gagnés de nouveaux amis. Tout ça pour arriver ici le plus vite possible. »
La chère dame Irline posa les yeux sur le coffre d'or, leva une main comme si elle voulait le toucher, se ravisa et reprit son discours.
« Ma fille, Elaïda est à Tarvalon. Elle est venue avec Elaine et Gawain. »
Toujours consciente que Léane observait et écoutait ce dialogue, Moiraine posa ses mots avant de répondre.
« Je suis étonnée, mère. Pour Morgaz, était-ce vraiment le moment de se priver d'une si précieuse conseillère ?»
Toutes les têtes couronnées ou presque consultaient en secret une Aes Sedai. Morgaz était une des seules à le reconnaître, et ça ne lui valait pas que des applaudissements.
« Elaïda tenait à partir, et aucune volonté ne pèse face à la sienne. Ne serait-ce celle d'une souveraine. Et dans ce cas précis, je ne suis pas sûr que Morgaz se soit opposé au désir de sa conseillère. Elaïne a un grand potentiel. » Le plus grand que j'ai jamais vu, pour être franche. Elle progresse à toute vitesse, et les sœurs de l'Âge à Rouge en sont bouffies d'orgueil. La fille héritière ne semble pas contaminée par leur philosophie, mais elle est jeune, et ça peut encore changer. Et même si elle ne se convertit jamais, ça ne fera guère de différence. Elle est peut-être bien la Aes Sedai la plus puissante depuis 1000 ans, et c'est l'Âge à Rouge qui l'a trouvée. Grâce à elle, les sœurs de cette obédience prendront encore de l'importance au sein du Conseil. Mère,
dis-moi, Reine.
J'ai avec moi 2 jeunes femmes du territoire de Deux-Rivières, un endroit où le sang de Manet Terren est encore pur et puissant, même si personne ne se souvient qu'il existait jadis un pays ainsi nommé. Le sang ancien chante, et je ne l'avais jamais entendu si nettement. La villageoise Egwene est au minimum légale d'Elaine. Je peux l'affirmer parce que j'ai rencontré la fille héritière. L'autre femme, Ninevée, est la sage dame d'un village alors qu'elle sort à peine de l'adolescence. Quand le cercle des femmes choisit quelqu'un de si jeune, ça en dit long sur les qualités de l'élu. Lorsqu'elle aura appris à contrôler son don, elle sera l'égale des meilleures Aes Sedai. Et une fois formée,
Elle passera pour un grand feu de joie comparé aux modestes bougies que seront Elaine et Gwen. De plus, mes deux paysannes ne choisiront pas la jarre rouge. C'est une certitude. Les hommes les amusent ou les agacent, mais elles les aiment sincèrement. À elles deux, elles compenseront amplement l'influence gagnée par les sœurs rouges.
La chère Dame Irline acquiesça distraitement, comme si rien de tout ça n'avait grande importance. Avant de se ressaisir, Moiraine ne put s'empêcher de froncer les sourcils de surprise. Le hall de la tour s'inquiétait qu'on trouve chaque année un peu moins de candidates à la formation et que celle-ci soit, en outre, de moins en moins puissante. Pour la survie des Aes Sedai, cette menace était bien plus grave que les accusations des fanatiques qui les tenaient pour responsables de la dislocation du monde, plus grave que la haine que leur vouaient les Fils de la Lumière, et plus grave même que les manigances des suppôts de ténèbres. Un ordre qui perdait des membres et de la puissance risquait de disparaître. Aujourd'hui, les couloirs de la Tour Blanche étaient quasiment déserts, alors qu'ils grouillaient jadis de monde, et l'efficacité du pouvoir de l'unique se délitait un peu plus au fil du temps, certains miracles devenant tout simplement impossibles à réaliser.
« Elaïda est venue à Tar Valon pour une autre raison, ma fille, »
dit la chère Dame Irline.
« Pour être sûre que je le recevrai, elle m'a fait envoyer le même message par 6 pigeons différents. Et qui sait à combien d'autres personnes elle l'a fait parvenir. Puis elle est venue dire en personne devant notre conseil que tu frayes avec un jeune homme qui est Taveren et très dangereux. Il était à Kemlin, a-t-elle affirmé. Mais tu l'as aidé à s'enfuir avant qu'elle ait pu le localiser. Les employés de l'auberge où nous étions se sont montrés loyaux et serviables, mère. Si elle leur a fait du mal... »
Moiraine entendit Léane s'agiter dans son dos. Elle n'avait pas su contenir sa colère, et nul ne pouvait parler ainsi à la chère Dame Irline, y compris un roi assis sur son trône.
« Tu devrais savoir, ma fille, qu'Elaïda ne fait de mal à personne, à part aux gens qu'elle estime dangereux. Les suppôts des ténèbres, les pitoyables idiots qui tentent de canaliser le pouvoir, les ennemis déclarés de Tar Valon. Les autres êtres humains, à l'exception des Aes Sedai, bien sûr, ne comptent pas plus pour elle que des pions sur un plateau de jeu. Par bonheur, l'aubergiste, un certain maître Gil, pense beaucoup de bien des Aes Sedai, et il a répondu aux questions de notre ami. Si surprenant que ce soit, Elaïda dit grand bien de lui. Mais elle s'intéresse beaucoup plus au garçon qui a voyagé avec toi. Plus dangereux qu'aucun homme depuis Arthur El de Faucon, a-t-elle dit. Elle a un don de voyance, tu le sais, et ça donne du poids à ses propos, aux yeux du hall de la tour.
Afin de ne pas indisposer Léane, Moiraine adopta le ton le plus soumis dont elle disposait dans son répertoire. Rien de très convaincant, mais il faudrait bien que ça suffise.
« Mère, j'ai 3 jeunes hommes avec moi, c'est vrai. Mais aucun n'est un roi, et je doute fort que l'un d'eux rêve de fédérer le monde sous le règne d'un unique souverain. Depuis la guerre des 100 années, plus personne n'a partagé le rêve fou d'Arthur. De jeunes villageois, selon ce que m'a dit Aguelmar. Mais l'un d'eux est Taveren. »
La chère Dame Irline regarda de nouveau le coffre d'or.
Devant le hall de la tour, on a évoqué la possibilité que tu fasses une retraite forcée, afin de t'immerger dans une contemplation. La proposition venait d'une des représentantes de la Javert, soutenue par ses 2 collègues tandis qu'elle parlait.
Léane eut un soupir dégoûté, une façon d'exprimer sa frustration. Lorsque la chère Dame Irline s'exprimait, elle adoptait toujours profil bas, mais cette interruption était compréhensible. Depuis l'époque d'Arthur El de Faucon, l'Aja Vert et l'Aja Bleu étaient alliés, parlant d'une seule et même voix.
« Mère, je n'ai aucune envie de faire pousser des légumes dans un lointain village, »
dit Moiraine.
« Et je ne le ferai pas, quoi que décrète le hall de la tour. Il a également été proposé, toujours par les sœurs vertes, que l'Aja Rouge s'occupe de toi pendant cette retraite. Les représentantes rouges ont mimé la surprise, mais elles avaient l'air d'un vol de Martin Pêcheur qui a repéré un banc de poissons. Elles ont prétendu hésiter à assurer la surveillance de quelqu'un qui n'appartient pas à leur aja. Mais elles se sont bien entendu déclarées prêtes à accepter les décisions du hall de la tour.
Moiraine ne put s'empêcher de frissonner.
« Ce serait très déplaisant, mère. »
Un euphémisme. Les Aes Sedai rouges se montraient impitoyables, tout le monde le savait. Pour l'instant, mieux valait penser à autre chose.
« Mère, je ne comprends pas cette soudaine alliance entre l'aja vert et l'aja rouge. » Leur croyance, leur attitude envers les hommes, leur conception de notre rôle, absolument tout les oppose. Une sœur rouge et une sœur verte ne peuvent même pas parler du temps sans que le ton monte. Les choses changent, ma fille. Sur les 5 dernières chères Dame Irline, 4 venaient de l'âge bleu. Nos sœurs pensent peut-être que ça fait trop, ou que la philosophie de ce groupe ne suffit plus dans un monde plein de faux dragons. En 1000 ans, beaucoup de choses évoluent. La chair d'Amirline fit la moue et murmura, comme si elle se parlait toute seule.
Les vieux murs faiblissent et les anciennes barrières s'écroulent.
Elle s'ébroua et reprit un ton normal.
Il y a eu une autre proposition, plus puante qu'un tas de poissons échoués depuis une semaine sur une plage. Léane appartenant à l'Aja Bleu, d'où je suis originaire, comme tu le sais, on a souligné qu'envoyer deux sœurs bleues avec moi reviendrait à offrir quatre représentantes à cet Aja. En ma présence, dans le hall de la tour, ces femmes ont évoqué le sujet comme s'il s'agissait de la réparation des gouttières. La motion a été mise aux voix. Deux sœurs blanches et deux sœurs vertes se sont déclarées contre moi. Les jaunes ont décidé de s'abstenir. Si une seule avait voté la motion, nos sœurs Anaya et Maïga ne seraient pas ici. Certaines représentantes ont même avancé que je ne devais pas quitter la tour blanche.
Moiraine en resta bouche bée, plus encore qu'en apprenant les visées de l'Aja Rouge sur sa personne. D'où qu'elle vienne, la gardienne des chroniques réservait sa loyauté à la chair d'Amirline. Et celle-ci parlait au nom de toutes les Aes Sedai et de tous les Aja. Il en était ainsi depuis toujours, et nul n'avait jamais mis cette règle en question, même aux heures les plus sombres des guerres des Trollocs. Et même quand les troupes d'Arthur assiégeaient les Aes Sedai survivantes coincées entre les murs de Tarvalon. Il y avait aussi et surtout la loyauté due à la chair d'Amirline. Toutes les Aes Sedai lui avaient juré fidélité, et il était inimaginable de mettre en question ses actes et sa liberté de circulation. La motion s'inscrivait en faux contre 3000 ans de tradition et de respect des lois.
« Qui a osé se dresser contre toi, mère ? Les coups sont venus de tous les côtés, ma fille. Les émeutes à Kemlin, la grande quête du corps relancé, sans que nous en soyons informés à l'avance. Les faux dragons qui pullulent comme les rouges cloches après la pluie. Ajoute le déclin des nations, les nobles et leur guerre d'influence, plus dévastatrice qu'au temps où Arthur crut y mettre un terme définitif. Faut-il mentionner le réveil du ténébreux, dont nous avons toute conscience ? Les sœurs ont l'impression que la tour blanche perd son emprise sur le monde. Si elle n'appartient pas à l'âge amaron, une Aes Sedai ne vaut presque plus rien. Le temps qui nous est imparti est peut-être écoulé, ma fille. Parfois, j'ai le sentiment d'entendre le compte à rebours. Les choses changent, tu as raison, mère. Mais le danger est plus grand hors des murs scintillants qu'à l'intérieur.
Un long moment, la chair d'Amirline soutint le regard de Moiraine, puis elle hocha lentement la tête.
« Laisse-nous, Léane, »
dit-elle.
« Je veux parler en privé à ma fille Moiraine. Si tu le désires, mère, »
répondit la gardienne après une très courte hésitation. Moiraine sentit la surprise de Léane. La chair d'Amirline donnait rarement des audiences dont la gardienne était exclue, en particulier quand elle avait des raisons de sermonner la sœur convoquée. La porte s'ouvrit puis se referma derrière Léane. Dans l'antichambre, elle ne révélerait rien de ce qui se passait derrière les battants. Mais en moins de temps qu'il en fallait pour le dire, toutes les Aes Sedai présentes à Faldara sauraient que Moiraine était seule avec leur dirigeante, et les spéculations iraient bon train. Dès que la porte se fut refermée, la chair d'Amirline se leva. Tandis qu'elle canalisait le pouvoir, Moiraine eut des fourmis dans tous les membres. Un instant, la dirigeante de la Tour Blanche parut enveloppée d'une aura de vive lumière.
« À ma connaissance, aucune sœur n'a ton petit talent de société pour écouter les autres. »
La chair d'Amirline toucha du bout d'un index la pierre bleue de Moiraine.
« Mais nous avons toutes développé des astuces pendant l'enfance. Alors pourquoi prendre des risques ? Plus personne ne peut entendre ce que nous disons, ma fille. »
Sans crier gare, la chair d'Amirline enlaça Moiraine, lui donnant une accolade digne d'une profonde et ancienne amitié. L'étreinte fut aussi réciproque que chaleureuse.
« Tu es la seule, Moiraine, avec qui je peux me souvenir de ce que j'étais. Léane se comporte à tout moment comme si elle était devenue son étole et son sceptre. Même quand nous sommes seuls, elle semble avoir oublié nos fous rires de novice. Parfois, je regrette le temps où nous n'avions pas encore prononcé nos vœux, toi et moi. Encore assez innocente pour voir tout cela sans frémir, comme si les légendes des trouvères se réalisaient. Et assez naïve pour penser que nous rencontrerions des hommes, des princes beaux, vaillants et doux, tu te rappelles ? Assez fort pour supporter de vivre avec une Aes Sedai et son pouvoir. Fallait-il être bête ? Croire que les légendes finiraient bien et respirer vivre comme des femmes normales, simplement avec quelque chose en plus. Siouan, nous sommes des Aes Sedai, avec un devoir à accomplir. Même si le pouvoir n'était pas notre destin, y renoncerais-tu en échange d'un foyer et d'un mari, fût-il un prince ? Je n'y crois pas un instant. C'est le rêve d'une villageoise. Même les sœurs vertes ne vont pas jusque-là. »
La chair d'Amirline s'écarta de son amie.
« Tu as raison, je n'y renoncerai pas.
La plupart du temps, en tout cas. Car il m'est déjà arrivé d'envier les villageoises, sais-tu? Aujourd'hui, je n'en suis pas loin. Moi, Rain, si quelqu'un découvre notre plan, même Léane, nous serons toutes les deux calmées. Et je ne donnerai même pas tort à nos sœurs d'agir ainsi.